Voilà, je... Je redis ce que j'ai dit et qui a échappé à ceux qui n'étaient pas là. Je concevrai nos séances de la manière suivante. C'est pour que vous contrôliez bien vos heures d'arrivée. Chaque fois, je serai là à 9 heures. Moi, tout mon état déjà. Vers 9 heures, quoi, je serai là. Et je reprendrai avec ceux qui seraient là les points jugés nécessaires de la séance précédente, ou bien on ira un peu plus loin dans telle ou telle direction. Ce qui nous mettrait vers 10h moins le quart, 10h, où je ferai la nouvelle séance. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent entre 9h30 et 10h, ce qui me gêne. Vous comprenez, par là je tourne habilement. Je le ferai. Et donc, chaque fois, il y aurait un début qui consisterait à approfondir des points de la séance précédente. Vous me suivez? Mauvaise volonté. Oh, ben, de toute manière, ça ne se pose pas pour vous, vous arrivez à 10 heures.
Et ton coup, il est à 10 heures, ce
signal? Non, cette année, il est à 9 heures. Tout a changé à cause de la réforme.
Et 6 heures de cours, puisque tu approfondis à chaque fois le point. Tu finis toujours à 1h30, donc tu as 5 heures de cours.
Malveillance, mauvaise volonté. Bien, enfin vous verrez bien. Alors, vous voyez, ça revient à dire quoi? Ça revient à parler de manière comme philosophique, à savoir, voir et parler sont des éléments purs. Voir et parler font partie d'une analyse d'éléments. Donc, voir, ce n'est pas un comportement. Parler, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une histoire des idées, une histoire des comportements. C'est s'élever vraiment vers les conditions, à savoir les visibilités et les énoncés. Seulement, on n'a pas fini. Car, tout de suite, au moins... Ce qui précède nous a rendu forts pour quelque chose. Ça nous a rendu forts pour quoi? Pour éviter, non pas un contresens sur Foucault, mais une espèce de mutilation. La mutilation, ce serait celle-ci. C'est en vertu de la force et de l'originalité de la théorie des énoncés chez Foucault, de la notion tout à fait nouvelle qu'il dégage de l'énoncé, faire de Foucault quelqu'un pour qui il n'y a que des énoncés. Au point que le visible ne serait que des résidus d'énoncés ou des illusions projetées par l'énoncé. Et où Foucault serait réduit à quoi? Disons-le tout simple, à un philosophe du langage. Ou pire, à un philosophe analytique. J'entends la philosophie analytique anglo-américaine. Or, qu'il y ait lieu de comparer Foucault et ses auteurs, tantôt des linguistes, tantôt des philosophes analytiques, c'est sûr. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est encore une fois sur ce un dualisme si bizarre. Dualisme visibilité énoncé. Et sans doute un certain nombre d'entre vous ont vu Foucault de son vivant. Ceux qui l'ont vu, il suffisait de le voir, je crois, pour savoir deux choses. Pour savoir que bien sûr il avait une passion, moins pour ce qu'il disait lui-même que pour ce qu'il entendait dire. Mais il avait aussi une passion de voir, une espèce de génie visuel chez lui, non moins qu'un génie dénoncé. Et pourquoi est-ce que je dis ça et que je me réfère à une note là, personnelle? Parce que je me rappelle un texte où un commentateur du Gréco, le peintre, parle des formes allongées du Gréco, des corps allongés, et suggère que ce n'est pas sans rapport avec son astigmatisme au gréco. Il était astigmate, mais enfin, bon, ça pose un bon problème. Est-ce que l'allongement du corps comme technique picturale est un effet de l'astigmatisme? Non, certainement pas. Mais pourquoi il n'y aurait pas un rapport complexe entre les deux? Bon, j'insiste sur la myopie de Foucault. Je veux dire, sa passion de voir. D'une certaine manière, est-ce qu'il faut mettre, est-ce qu'on doit, est-ce que c'est légitime de mettre en rapport cette espèce de passion de voir avec ce qu'il entendait par voir? Car quand il parle des visibilités, je vous disais, les visibilités, ce n'est pas des choses et des objets. Et on pourra le justifier philosophiquement, ça ne peut pas être des choses et des objets, c'est autre chose. Or, quand Foucault en parle, c'est quoi? Toujours, les expressions qui reviennent constamment, c'est miroitement, scintillement, éclat. Éclat, miroitement, scintillement. Son style même. Son style est un style de lumière. La matérialité de son style est extraordinairement lumineuse, c'est-à-dire c'est des chatoiements, des scintillements, des éclats. Le visible, ce n'est pas la chose ou l'objet, ni même la qualité. Le visible, c'est le miroitant, le scintillant, l'éclatant. C'est ça une visibilité. Il faudra chercher pourquoi. De même que je disais, les énoncés, c'est tout à fait autre chose que des mots et des phrases. Bon. Donc je dis, il y a une passion de voir, non moins qu'une passion d'énoncer chez lui. Et c'est pour ça que c'est un très grand descripteur de tableaux. Si vous voulez, parmi mes couples, j'aurais pu aussi bien mettre, et je l'ajoute en dernier, description, énonciation. Description, la description est toujours description d'un tableau. Et une description, c'est tout à fait autre chose qu'un énoncé. Or, à cet égard, il fait des descriptions qui sont, dans toute son œuvre, soit description de tableau, description de Velázquez, du tableau de Velázquez, description du tableau de Magritte, mais aussi description de la prison, description de l'asile. Je réponds par là, comment peut-on parler d'une visibilité ? C'est que parler d'une visibilité, c'est d'écrire. Et d'écrire, c'est pas la même chose qu'énoncer. Et Foucault va sur deux pas, sur deux pieds dissymétriques, les descriptions et les énoncés. Si bien qu'on aura à considérer qu'est-ce qu'un tableau, qu'est-ce que la théorie des descriptions chez Foucault, et pas seulement qu'est-ce que la théorie des énoncés. Ceci dit, j'ai l'air de dire le contraire, mais il faut le dire. Il ne me paraît pas douteux qu'il y a un primat des énoncés. Les énoncés ont le primat sur les visibilités. Seulement, qu'est-ce que veut dire avoir le primat? C'est des problèmes pour l'avenir, là. Qu'est-ce que veut dire avoir le primat? Le primat des énoncés sur les visibilités culmine avec l'archéologie du savoir. Mais Foucault ne reviendra jamais sur ce point. Et en effet, vous trouvez dans l'archéologie du savoir une expression très curieuse. Foucault nous disant, le discursif a des relations discursives avec le non-discursif. On ne peut pas mieux dire le primat du discursif. Le discursif a des relations discursives avec le non-discursif, c'est-à-dire l'énoncé a des relations énonciatives avec le non-énoncé, avec le visible. Primat des énoncés, il faudra dire oui. Il y a un primat des énoncés. Seulement, ce que je veux marquer, c'est ceci, et je vous demande déjà de réfléchir, ça nous occupera énormément plus tard, ça, ce point. c'est un point très méticuleux, très précis, c'est que jamais le prima n'a voulu dire réductibilité. Et ça me paraît évident. Toute compréhension de Foucault, qui traduirait le prima de l'énoncé sur le visible, en termes de réductibilité du visible à l'énoncé, est profondément mutilante pour la pensée de Foucault. Bien plus, quelque chose n'a le prima sur quelque chose d'autre que dans la mesure où ce quelque chose d'autre est d'une autre nature. Vous ne pouvez pas conclure du prima à la réduction, au contraire. L'énoncé a le prima sur le visible. Qu'est-ce que veut dire prima? En tout cas, prima ne veut pas dire que le visible se réduise à l'énoncé. Bien plus, au point où nous en sommes, il faudrait poser toutes sortes de thèses à la fois. Quatre thèses. Si vous m'accordez ces couples, voire parler. Première thèse, et je crois qu'elles sont toutes chez Foucault. Première thèse. Il y a différence de nature entre voir et parler, entre le visible et l'énonçable. En termes plus savants, il n'y a pas isomorphie. Qu'est-ce que veut dire isomorphie? Il n'y a pas isomorphisme. Foucault ne cessera de le dire, et il le dit explicitement dans « Ceci n'est pas une pipe » et dans « Naissance de la clinique ». Mais constamment, dans tous ses livres, l'isomorphisme est récusé. Il n'y a pas isomorphisme entre voir et parler, c'est-à-dire entre le visible et l'énonçable. Ça veut dire qu'il n'y a pas conformité. Conformité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou forme commune, ou correspondance entre les deux formes. Correspondance biunivoque entre les deux formes. Foucault nie la conformité, la correspondance, l'isomorphisme, voire parler. En d'autres termes, on ne voit jamais ce dont on parle et on ne parle jamais de ce qu'on voit. Est-ce qu'il le dit? Oui, il le dit, il cesse de le dire. Et c'est bien pour ça que je dis que c'est la première grande thèse. Notamment au début des mots et des choses. On verra ces textes plus tard en détail, mais je résume un grand texte de Foucault. Ce qu'on voit ne se loge jamais dans ce qu'on dit. Ce qu'on voit, dans mon souvenir, page 21. Ce qu'on voit ne se loge jamais dans ce qu'on dit. Et il ajoute, et ce qu'on dit a beau procéder par métaphore, etc. Il y a une assez longue phrase, a beau procéder par métaphore, déplacement, etc. Il ne nous fait jamais voir ce qu'on voit. Ce qui veut dire quoi? Parler n'est pas voir, voir n'est pas parler. Il y a disjonction entre voir et parler. Il y a disjonction. Il n'y a pas conjonction. Il y a disjonction entre voir et parler. Vous me direz, mais ce n'est pas vrai, je peux parler de ce que je vois et je peux voir ce dont je parle. Si vous me disiez ça, c'est que vous n'auriez pas suivi. Bien sûr, vous pouvez toujours. La question, c'est est-ce que ça a de l'intérêt? Est-ce que vous parlez, lorsque vous parlez de ce que vous voyez, est-ce que c'est pas, ça n'a d'intérêt que si vous le communiquez à quelqu'un qui ne voit pas, lui? Parce que si c'est quelqu'un qui voit la même chose que vous, il ne voit pas très bien l'intérêt de dire ce que vous voyez. Tiens, un bateau, bon, c'est tout, quoi. Tiens, quelqu'un qui... Voilà, vous comprenez? Alors, disjonction, voir parler. Ça veut dire quoi encore ça? Et ça éveille quoi? À cet égard, Foucault, évidemment, fait partie, je ne sais pas, d'un ensemble de pensées et étant dans un certain rapport avec d'autres penseurs. Il faudra voir d'assez près qu'est-ce que c'est que ce thème d'une disjonction fondamentale, voire parler. Ça paraît encore une fois une platitude, ou même quelque chose de discutable, mais pensez qu'il faut le comprendre d'une certaine manière au point où nous en sommes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas que parler et voir ne soient pas la même chose. Ce qui est important, ce n'est pas parler et voir, encore une fois. C'est ce à quoi renvoie parler et ce à quoi renvoie voir. Peut-être que voir et parler, ça va ensemble. Mais ce qui ne va pas ensemble, c'est ce à quoi renvoie voir et ce à quoi renvoie parler. Une fois dit que, selon Foucault, ce à quoi renvoie voir, c'est à des visibilités. Et ce à quoi renvoie parler, c'est à des énoncés. Donc ça revient à dire, entre les énoncés et les visibilités, il y a différence de nature. Il n'y a pas d'isomorphie. Et qu'est-ce qu'il a montré, encore une fois, dans l'histoire de la folie? Qu'il n'y avait pas isomorphie entre l'hôpital et la médecine. Chacun a sa formation. L'hôpital vient de la police, la médecine. La déraison vient de la médecine. De même, la prison vient du disciplinaire, la délinquance vient du judiciaire. Il n'y a pas isomorphie. Il n'y a pas forme commune. Or, je dis, ça doit nous faire penser à d'autres auteurs. Avant tout à Blanchot. Et Foucault a souvent marqué ça, reconnaît sa tête vis-à-vis de Blanchot. Il n'est pas question de le considérer comme un disciple de Blanchot, je crois plus qu'il y a rencontre entre les deux, surtout que, à partir de la même thèse, voir ce n'est pas parler, Foucault et Blanchot vont développer le thème de deux manières assez différentes. Et en effet, voir ce n'est pas parler. C'est un grand texte de Blanchot, ça parcourt toute son œuvre, et c'est un chapitre précis, qui est un des plus beaux, parmi les plus belles pages de Maurice Blanchot, dans l'Entretien infini, édition Gallimard. Parler, ce n'est pas voir. Parler, ce n'est pas voir. Vous remarquerez que Blanchot n'ajoute pas « voir, ce n'est pas parler ». Je crois qu'il appartient à Foucault de faire la réciproque. « Voir, ce n'est pas parler ». À quelles conditions? Et qu'est-ce que signifie? Quelle différence avec Blanchot? Bon, peu importe, puisqu'on aura à le voir plus tard. C'est un problème pour nous, rapport avec Blanchot. Mais le régime même d'une disjonction entre voir et parler, ce qui était l'année dernière, vous vous rappelez peut-être que on l'a rencontré à un autre niveau qui était le niveau du cinéma. Et il nous avait semblé, quand on travaillait sur la parole au cinéma, que certains auteurs du cinéma moderne faisaient de la parole et du parlant un usage très particulier, en sens que c'était un usage disjonctif avec l'image visuelle. Et que, entre la parole et l'image visuelle, il y avait des rapports de disjonction. Il nous avait semblé que c'était, avant tout, vérifié ou présenté par trois grands auteurs actuels, à savoir Lestrom, Marguerite Duras et Cyberbeck. Qu'est-ce que c'est que cette disjonction, voire parler? C'est que, comme dit Marguerite Duras, c'est comme s'il y avait deux films. Deux films, c'est-à-dire sans isomorphie. le film des voix et le film visuel. Et les voix évoquent un événement qu'on ne verra pas. Tandis que l'image visuelle présente des lieux sans événement, lieux vides ou lieux muets. Pensez par exemple, ceux qui ont vu ce film, à India Song, où l'image visuelle est renvoyée d'un côté et le film des voix d'un autre côté. Ce qu'on voit ne se loge pas dans ce qu'on dit. Ce qu'on dit ne fait pas voir. Il y a du voir et il y a du dire, mais dans un rapport disjonctif. Autant dire un non-rapport. Non-rapport, cette expression insolite, elle est de Blanchot. Blanchot dit entre voir et dire, entre voir et parler. Entre parler et voir, il y a un non-rapport. Et il ajoute, ce non-rapport qui est peut-être plus absolu que tout rapport. Curieux, ça. Ce non-rapport qui est peut-être plus absolu, vous verrez, s'il vous arrive de lire « Ceci n'est pas une pipe », que Foucault reprend l'expression « non-rapport » dans « Ceci n'est pas une pipe » en disant entre le dessin et son titre, c'est-à-dire entre le visible et l'énoncé, il y a un non-rapport. Autant dire, il y a disjonction. Ah, il y a disjonction, bon. Mais en même temps, oui, on retourne sur le point suivant. Ce non-rapport doit bien d'une certaine manière être un rapport. Et même être plus profond que tout rapport. Les deux formes sont irréductibles. La forme du visible et la forme de l'énonçable sont irréductibles. Il n'y a ni conformité, ni correspondance, ni isomorphie. Il y a non-rapport, il y a disjonction. Et il faut bien que ce non-rapport soit d'une certaine manière originale, paradoxale, un rapport. Mais ce ne sera pas un rapport des deux formes. Ce ne sera pas une conformité. Sentez autour de quoi on tourne, on est en plein dans le problème de la vérité tel que le posera Foucault. Puisque la vérité, elle a toujours été définie par la conformité. Conformité de la chose et de la représentation, conformité du dire et du voir. Bon. Donc, la première thèse de Foucault, c'est, il ne reviendra jamais là-dessus, c'est hétérogénéité des deux formes, différence de nature. Ce qu'on voit ne se loge pas dans ce qu'on dit et réciproquement. Deuxième thèse. Qui est premier ? La question ne se pose pas. Il y a présupposition réciproque. L'un et l'autre se présupposent. Il y a présupposition réciproque. Troisième thèse. Il n'y en a pas moins primat de l'énoncé sur le visible. On revient à notre problème. D'où vient ce primat ? Vous voyez que le primat n'implique aucune réduction. D'accord, les deux sont irréductibles. D'accord, là, le primat sur l'autre. Mais loin d'entraîner une réduction, le primat suppose l'irréductibilité. Je ne peux exercer un primat ou un pouvoir que sur ce qui résiste, que sur ce qui a une autre forme. Et enfin, quatrième thèse. Il y a dans un sens comme dans l'autre, des captures mutuelles. À savoir, c'est ça sans doute qui va être le plus compliqué chez Foucault, les énoncés ne cessent de capter, de capturer du visible. Les visibilités ne cessent de capter, de capturer des énoncés. Mais comment est-ce possible, puisque ces deux formes hétérogènes, irréductibles? Ça va être le plus beau. À mon avis, c'est le plus beau chez Foucault. Ce système de la double capture. Les visibilités s'emparent d'énoncés, les énoncés s'emparent de visibilité. Et c'est dans ce petit livre, « Ceci n'est pas une Bible », que Foucault le développe le plus. Il parle d'incision des énoncés dans le visible, d'incursion du visible dans l'énoncé. Incursion, incision, il dit, chacun, là je cite de mémoire, mais par cœur, presque par cœur, chacun envoie sa flèche dans la cible de l'autre. Chacun envoie sa flèche dans la cible de l'autre. Et il ajoute, là je garantis le mot, c'est une bataille. C'est une bataille. Voyez pourquoi il ajoute c'est une bataille et vit vraiment le rapport des visibilités et des énoncés comme une bataille. Il le vit nécessairement comme une bataille, et ce doit être une bataille, puisque ce n'est pas la même forme. Il ne peut pas y avoir accord entre les énoncés et les visibilités. Il ne peut pas y avoir accord. Pourquoi ? Parce que l'accord, c'est une forme commune ou une correspondance de forme à forme. Or, il n'y a ni forme commune, ni correspondance formelle entre le visible et l'énonçable. S'il y a des phénomènes de capture, ce sera donc pas sous forme d'un accord, d'une conformité, ce sera sous forme d'une capture violente, une bataille. Alors vous me direz, c'est des mots. Oui, mais ces mots nous permettent de cerner le problème. Si bien que je me retrouve avec ces quatre thèses fondamentales. Différence de nature ou hétérogénéité des deux formes. Forme du visible, forme de l'énonçable. Donc, non-rapport. Présupposition réciproque des deux. Chacun présuppose l'autre. Troisièmement, primat de l'un sur l'autre. Primat de l'énoncé sur la visibilité. Quatrièmement, capture mutuelle, étreinte de lutteur entre les visibilités et les énoncés, comme dans une bataille. Qu'est-ce que ça revient à dire, ça? Ça nous fait déjà un programme, ça. Il va falloir se débrouiller avec ces quatre thèses. Tout ce que je peux conclure pour le moment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une archive? Et comprenez, je vais répondre, je vais donner une réponse finale qui sera en un sens la plus décevante et qui cessera d'être décevante si vous tenez compte de tout ce qu'il a fallu pour y arriver. Je dirais, eh bien voilà, l'archive, elle est fondamentalement audiovisuelle. Et puis salut les gars, quoi. L'archive, elle est audiovisuelle. Seulement, cette platitude a été transformée par Foucault. Parce que continuons, dès lors, qu'est-ce que c'est que l'archéologie? L'archéologie, c'est l'étude des formations historiques. En quoi c'est autre chose que de l'histoire? Parce qu'il s'agit de s'élever jusqu'aux conditions, le visible et l'énonçable, et que jamais l'histoire ne pourra dégager les énoncés, ni dégager les visibilités pures. Ce sont des éléments purs. Il faut une analyse philosophique. Si bien que, qu'est-ce que c'est? Qu'une formation historique, je peux dire maintenant. Une formation historique, c'est un agencement de visible et d'énonçable. C'est une combinaison. C'est une manière de combiner des visibilités et des énoncés. Une fois dit que, on l'a vu, n'importe quel énoncé, les deux sont irréductibles, mais n'importe quel énoncé ne se combine pas avec n'importe quelle visibilité. Il y a des combinaisons, des captures qui excluent que n'importe quoi aille avec n'importe quoi. La cohérence d'une époque est faite de ce que ces visibilités, en vertu de leur forme propre, sont combinables avec ces énoncés en vertu de leur forme propre. C'est ça qui définira cet entrelacement, cet entrecroisement des visibles et des énonçables, qui varie d'après chaque formation historique. Aucune formation historique ne voit, c'est-à-dire dans les visibilités et les énonçabilités d'une autre. Et c'est même ça qui définit. Dès qu'il y a une variation du régime d'énoncé et des champs de visibilité, vous pouvez dire, nous entrons dans une autre formation historique. Donc, l'archéologie, cet agencement du visible et de l'énonçable comme constitutif de la formation historique, c'est ce que Foucault appellera dans sa terminologie à lui un dispositif. Un dispositif. Et enfin, on en a assez, hein, et enfin, je termine sur le point suivant, les deux, voir et parler, c'est-à-dire les visibles et les énonçables, constituent ce qu'il appelle un savoir. Savoir, c'est toujours effectuer le non-rapport entre le visible et l'énonçable. C'est combiner le visible et l'énonçable. C'est opérer les captures mutuelles du visible et de l'énonçable. Et il y va du problème de la vérité. Vous remarquerez peut-être que j'ai défini de la même manière archives audiovisuelles, formation historique, combinaison de visible et d'énonçable, et savoir. Et oui, c'est que pour Foucault, il n'y a rien sous le savoir. Tout est un savoir. Tout est savoir. Il n'y a pas d'expérience avant le savoir. C'est sa rupture avec la phénoménologie. Il n'y a pas, comme disait Merleau-Ponty, une expérience sauvage. Il n'y a pas de vécu, ou plutôt le vécu est déjà un savoir. Simplement, tout savoir n'est pas une science. Mais il n'y a rien sous le savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une formation historique? Ce sont les seuils de savoir très divers les uns des autres qui la constituent à une époque. Un empilement de seuils diversement orientés. D'où archéologie du savoir. C'est le savoir qui est objet d'une archéologie, car savoir, c'est précisément combiner le visible et l'énonçable. En quel sens? En ce sens, j'entame là ce que je voudrais faire la prochaine fois, et en ce sens que le visible renvoie à un processus, on l'a vu, l'énonçable renvoie à un procédé, combiner savoir, c'est-à-dire combiner le processus de visibilité et le procédé d'énonçabilité, le procédé de création des énoncés, c'est quoi? Le processus plus le procédé, c'est une procédure. Le savoir est procédure. La vérité n'existe pas indépendamment de la procédure, et la procédure, c'est la combinaison du processus visible et du procédé énonciatif. plus. Voilà tout un ensemble de notions. On a fait le tour à peu près de quoi ? De ce qui n'est évidemment que le premier axe de la pensée de Foucault. La prochaine fois, donc, dès 9h, je serai là et pour revoir avec vous, pour revoir avec ceux qui seront là, comment, s'il y a des choses sur lesquelles revenir, tout ça. Hein. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à tout ça, c'est comme un peu le programme de nos séances suivantes. Alors ceux qui voient que ça ne les concerne pas, vous ne revenez pas surtout. Ceux qui pensent que ça les concerne, vous revenez. Et au début, si vous avez des questions, au début, on réglera ces questions. Et puis on continuera.